Radio Courtoisie. Histoire à la loupe.
Vous écoutez les Histoires à la loupe, une émission de Radio Courtoisie. Voici la promesse à Abraham, deuxième et dernière partie de ce récit de Patrick Simon. Montage et arrangement sonore, Sandrine Moutier. Vous venez d'entendre le psaume 42, interprété par Sœur Marie Kérouze.
Après cette apparition, survient la célèbre scène relative à la destruction de Sodome. Lisons les premières phrases. Yahvé dit « Le cri contre Sodome et Gomorre est bien grand. Leur péché est bien grave. Je veux descendre et voir s'ils ont fait ou non tout ce qu'indique le cri qui contre eux s'est élevé et monté vers moi. » Fin de citation. Arrêtons-nous un instant à ce cri. Peut-être ça vous dit pas grand-chose, certains d'entre vous. Alors pour l'actualiser, je vais prononcer des mots qui vous feront tout de suite comprendre ce qu'est le cri de Sodome. Auschwitz, le goulag, les massacres du 7 octobre 2023 perpétrés par le Hamas, le régime des Mollahs, ça doit vous dire quelque chose, amis auditeurs. Bon, et tout de suite on comprend ce que veut dire le cri de Sodome. C'est le cri des victimes innocentes qui sont tuées, torturées ou violées. Le récit de la Genèse, souvent purement descriptif et neutre, qui ne porte pas de jugement, va jusqu'à dire que les gens de Sodome étaient, je cite, de grands scélérats. N'oubliez pas ça, c'est dans la Bible. Yahvé veut donc les détruire. Et là, c'est la surprise, curieusement, Abraham, qui obéit toujours à Dieu, presque aveuglément, sans jamais barguigner, commence à négocier, poliment, bien sûr. Mais y marchande. Ce dialogue n'est pas dénué d'une pointe d'humour, car je pense, pour ma part, qu'Abraham obtient de Dieu exactement ce que Dieu espérait qu'il demande. Alors voilà le texte. Celui-ci s'approcha et dit « Vas-tu vraiment supprimer le juste avec le pécheur? Peut-être y a-t-il 50 justes dans la ville? Vas-tu vraiment les supprimer? Et ne pardonneras-tu pas à la cité pour les 50 justes qui sont dans son sein? Loin de toi de faire cette chose-là, de faire mourir le juste avec le pécheur, en sorte que le juste soit traité comme le pécheur. Loin de toi, Seigneur, est-ce que le juge de toute la terre ne rendra pas justice? » Et Yahvé répondit, « Si je trouve à Sodome 50 justes dans la ville, je pardonnerai à toute la cité. » À cause d'eux. Abraham reprit. Je suis bien hardi de parler à mon Seigneur, moi qui suis poussière et cendre, mais peut-être des 50 justes, peut-être en manquera-t-il 5. Feras-tu pour 5 périr toute la ville? Il répondit. Non. Si j'y trouve 45 justes. Abraham reprit encore la parole et dit. Oui, mais peut-être n'y en aura-t-il que 40. Et il répondit, je ne le ferai pas à cause des quarante. Abraham dit, que mon Seigneur ne s'irrite pas et que je puisse parler, peut-être s'en trouvera-t-il 30 ? Et il répondit, je ne le ferai pas si j'en trouve 30. Il dit, je suis bien hardi de parler à Monseigneur, peut-être s'en trouvera-t-il 20 seulement. Et il répondit, je ne détruirai pas à cause des 20. Il dit, que Monseigneur ne s'irrite pas et je parlerai une dernière fois, peut-être s'en trouvera-t-il 10. Et il répondit, je ne détruirai pas à cause des 10. Fin de citation. Après quoi, survient la destruction de Sodome, ce qui semble indiquer qu'il n'y avait pas 10 justes dans la ville. De fait, seul Lot, c'est le neveu d'Abraham, est sauvé. Le texte, le voici. Yahvé fit pleuvoir sur Sodome et sur Gomorre du soufre et du feu. Alors, à cette époque, pour ce texte, quels enseignements ? L'idée de la responsabilité individuelle, à cette époque très ancienne, n'avait pas encore émergé. On est responsable du groupe, et si l'un des membres du groupe a fait une faute, et tout le groupe est tué. Voilà comment c'était à l'époque. Je rappelle que bien plus tard, Jésus-Christ l'a évoqué avec la catastrophe de la piscine de Siloé. Qui est responsable ? Ni eux, ni leurs parents, dit le Christ. Bon, je ferme cette petite parenthèse. Alors, qu'est-ce que nous voyons avec Abraham avec cela ? Eh bien, ça veut dire que la responsabilité individuelle de la personne apparaît. Et peu à peu, elle va se distinguer de la responsabilité collective et tribale du groupe. Et c'est le début, ce sera le début des règles de l'État de droit. Israël, l'État d'Israël, semble encore aujourd'hui très imprégné de la négociation d'Abraham des temps anciens, puisque même en temps de guerre, son armée s'est spécialisée dans le ciblage technologique des méchants. Les méchants, c'est le Hezbollah, le Hamas, par exemple. Et il cible, il ne tue pas à l'aveugle. Une exception fâcheuse est à signaler cependant au Liban, il y a quelques jours, lorsque Tsahal a attaqué des immeubles où habitait une majorité de Libanais qui n'appartenaient pas du tout au Hezbollah. Les Américains aussi essayent d'éviter les dommages collatéraux et ne tirent pas à l'aveugle sur des innocents comme le font des terroristes qui tirent à l'aveugle. Et comme le font les frappes des sanguinaires ayatollahs ou des abominables mollahs. Et au contraire, les Américains essayent d'opérer des frappes ciblées. Il y a seulement quelques jours, le régime iranien a encore fait exécuter plusieurs innocents à la prison de Gezel Ezar. Et il a fait aussi exécuter un champion de lutte sportif mondialement connu qui a été mis à mort lors d'une pendaison publique. Rappelez-vous, le cri de Sodome, c'est le cri des victimes innocentes et des victimes des grands scélérats, dit la Bible, que sont les sodomites. Aujourd'hui, ces scélérats, on peut dire que ce sont les gardiens de la révolution islamique en Iran. La promesse devient alors de plus en plus précise. C'est plus « le pays est à toi », c'est « tu vas avoir un enfant alors qu'il a 100 ans ». Donc, la promesse devient de plus en plus irréaliste. Et c'est là que nous avons la fameuse scène du chêne de Mambré. Certains d'entre nous la chantent pendant la vigie pascale. Yahvé lui apparut au chêne de Mambré tandis qu'il était assis à l'entrée de la tente au plus chaud du jour. Ayant levé les yeux, voilà qu'il vit trois hommes qui se tenaient debout près de lui. Dès qu'il les vit, il courut de l'entrée de la tente à leur rencontre et se prosterna à terre. Il dit « Monseigneur, je t'en prie, si j'ai trouvé grâce à tes yeux, veuille ne pas passer près de ton serviteur sans t'arrêter.
Ne t'arrête pas, je t'en prie. »
C'est... Il y a une chanson. Qu'on apporte un peu d'eau, vous vous laverez les pieds et vous vous étendrez sous l'arbre. Que j'aille chercher un morceau de pain et vous vous réconforterez le cœur avant d'aller plus loin. C'est bien pour cela que vous êtes passé près de votre serviteur. Et ils répondirent, fais comme tu as dit. Abraham se hâta vers la tente auprès de Sarah, et dit « Prends vite trois bois chauds de farine, de fleurs de farine, pétris et fais des galettes. » Puis Abraham courut au troupeau et prit un veau tendre et bon, il le donna au serviteur qui se hâta de le préparer. Il prit du caillet, du lait, le veau qu'il avait apprêté, plaça le tout devant eux, il se tenait debout près d'eux sous l'arbre et ils mangèrent. Ils lui demandèrent « Où est Sarah ta femme ?» Il répondit, « Elle est dans la tente. » L'hôte dit, « Je reviendrai vers toi l'an prochain. Alors ta femme Sarah aura un fils. » 90 ans. Hein. Sarah écoutait, à l'entrée de la tente qui se trouvait derrière lui. Or, Abraham et Sarah étaient vieux, avancés en âge, et Sarah avait cessé d'avoir ce qu'ont les femmes. Vous comprenez ce que ça veut dire. Donc Sarah rit en elle-même, se disant
« Maintenant que je suis usée, je connaîtrai le plaisir, et mon mari qui est un vieillard. »
Mais Yahvé dit à Abraham « Pourquoi Sarah a-t-elle ri, se disant « Vraiment vais-je encore enfanter alors que je suis devenue vieille ? Y a-t-il rien de trop merveilleux pour Yahvé ?» Petite parenthèse, donc, ça veut dire « Adieu. » Rien n'est impossible. Donc je reprends le texte. À la même saison l'an prochain, je reviendrai chez toi et Sarah aura un fils. Sarah démentit.
Non, je n'ai pas ri,
dit-elle, car elle avait peur. Mais il répliqua, si, tu as ri. Fin de citation. Alors, vous savez ce qui s'est passé un an plus tard, c'est la naissance d'Isaac conformément à la promesse. Ce premier miracle va survenir pour prouver à notre homme que les promesses sont suivies des faits. Le moment est arrivé où la promesse doit se réaliser. Je lis. Yahvé visita Sarah comme il avait dit, et il fit pour elle comme il avait promis. Sarah conçut et enfanta un fils à Abraham déjà vieux, au temps que Dieu avait marqué. Au fils qui lui naquit, enfanté par Sarah, Abraham donna le nom d'Isaac. Abraham circoncit son fils Isaac quand il eut 8 jours, comme Dieu lui avait ordonné. Abraham avait 100 ans lorsque lui naquit son fils Isaac. Et Sarah dit
« Dieu m'a donné de quoi rire. Tous ceux qui l'apprendront me souriront. »
Elle dit aussi
« Qui aurait dit à Abraham que Sarah allaiterait des enfants, car j'ai donné un fils à sa vieillesse. »
L'enfant grandit et fut sevré, et Abraham fit un grand festin le jour où l'on sevra Isaac. Or Sarah aperçut le fils né à Abraham de l'égyptienne Agar, qui jouait avec son fils Isaac, et elle dit à Abraham
« Chasse cette servante et son fils. Il ne faut pas que le fils de cette servante hérite avec mon fils Isaac. »
Cette parole déplut beaucoup à Abraham à propos de son fils. Mais Dieu lui dit « Ne te chagrine pas à cause du petit et de ta servante. Tout ce que Sarah te demande, accorde-le, car c'est par Isaac qu'une descendance perpétuera ton nom. Mais du fils de la servante, je ferai aussi une grande nation, car il est de ta race. » Abraham se leva tôt. Il prit du pain et une outre d'eau qu'il donna à Agar, et il mit l'enfant sur son épaule, puis il la renvoya. elle s'en fut errer au désert de Bersabée. Quand l'eau de l'outre fut épuisée, elle jeta l'enfant sous un buisson et elle alla s'asseoir vis-à-vis, loin comme une portée d'arc. Elle se disait en effet :
« Je ne veux pas voir l'enfant mourir. Non, non !»
Elle s'assit vis-à-vis et se mit à crier et à pleurer.
« Non !»
Dieu entendit les cris du petit. Et l'ange de Dieu appela du ciel Agar et lui dit : « Qu'as-tu, Agar ? Ne crains pas, car Dieu a entendu les cris du petit, là où il était. Debout, soulève le petit et tiens-le ferme, car j'en ferai une grande nation. » Dieu dessilla les yeux d'Agar, et elle aperçut un puits. Elle alla remplir l'outre et fit boire le petit. Dieu fut avec lui, il grandit et demeura au désert, et il devint un tireur d'arc. Et sa mère et lui... Il demeura au désert de Paran et il choisit une femme du pays d'Égypte. Fin de citation. Alors, on le voit, les bienfaits dont Abraham fut bénéficiaire grâce à Dieu furent multiples et engendrèrent une fervente confiance. Alors, je récapitule. Parce qu'on nous arrivons au sacrifice d'Abraham. Je récapitule ces miracles et bénédictions. 1. La promesse d'une descendance qui se réalise malgré l'âge avancé des époux. 2. La promesse d'un grand peuple qui se réalise. 3. La promesse d'un pays qui se concrétise au pays de Canaan. Et auparavant, il y avait aussi un tas de promesses qui se sont réalisées. Le retour de Sarai après son enlèvement par le pharaon. Le changement de nom, donc de destinée, les premières coutumes hébraïques, l'acceptation d'épargner Sodome si on lui trouve quelque juste, la destruction de la ville du mal, la naissance de la responsabilité individuelle et la multiplication des cadeaux fastueux donnés par le pharaon. À la lumière de cette explication, lisons maintenant le texte du sacrifice. Il arriva que Dieu éprouva Abraham et lui dit « Abraham, Abraham !» Il répondit « Me voici !» Dieu dit « Prends ton fils, ton unique que tu chéris, Isaac, et va-t'en au pays de Moria, et là tu l'offriras en holocauste sur une montagne que je t'indiquerai. » Abraham se leva tôt, scella son âne, prit avec lui deux de ses serviteurs et son fils Isaac. Il fendit le bois de l'holocauste et se mit en route pour l'endroit que Dieu lui avait dit. Le troisième jour, Abraham, levant les yeux, vit l'endroit de loin. Abraham dit à ses serviteurs, « Demeurez ici avec l'âne, moi et l'enfant, nous irons jusque là-bas, nous adorerons et nous reviendrons vers vous. » Abraham prit le bois de l'holocauste et le chargea sur son fils Isaac, lui-même prit en main le feu et le couteau, et ils s'en allèrent tous les deux ensemble. Isaac s'adressa à son père Abraham et dit
« Mon père !»
Il répondit « Oui, mon fils !»«
Eh bien, voilà le feu et le bois. Mais où est l'agneau pour l'holocauste ?»
Abraham répondit « C'est Dieu qui pourvoira à l'agneau pour l'holocauste, mon fils !» Et ils s'en allèrent tous deux ensemble. Quand ils furent arrivés à l'endroit que Dieu lui avait indiqué, Abraham éleva l'autel et disposa le bois, puis il lia son fils Isaac et le mit sur l'autel par-dessus le bois. Abraham étendit la main saisit le couteau pour immoler son fils. Mais l'ange de Yahvé l'appela du ciel et dit « Abraham, Abraham !» Il répondit « Me voici !» L'ange dit « N'étends pas la main contre l'enfant, ne lui fais aucun mal. Je sais maintenant que tu crains Dieu Tu ne m'as pas refusé ton fils, ton unique. » Abraham leva les yeux et vit un bélier qui s'était pris par les cornes dans un buisson. Et Abraham alla prendre le bélier et l'offrit en holocauste à la place de son fils. À ce lieu, Abraham donna le nom de Yahvé pourvoit. Et il dit, je jure par moi-même, parole de Yahvé, parce que tu as fait cela, que tu n'as pas refusé ton fils, ton unique, je te comblerai de bénédictions. Je rendrai ta postérité aussi nombreuse que les étoiles du ciel et que le sable qui est sur le bord de la mer. » Fin de citation. Alors, dans ce long texte, on ne peut pas parler de tout, on n'a pas assez de temps, mais je voudrais extraire juste une phrase qui est la réponse du Père au Fils à la question « Où est l'agneau pour l'Holocauste ?» C'est ce que demande Isaac et son Père répond « C'est Dieu qui pourvoira à l'agneau pour l'Holocauste, mon fils. » Au premier degré, Abraham semble mentir à son fils puisqu'il ne lui dit pas que ce sera lui l'agneau. Mais essayons de trouver une lecture au second degré. Compte tenu de l'accumulation de tous les bienfaits que je viens de récapituler et qui parsèment la vie d'Abraham, il n'est pas interdit de penser qu'Abraham espérait que tout cela allait bien se terminer, car il a confiance. C'est pourquoi il dit « Dieu y pourvoira ». Je cite Alain Perfit cette fois-ci dans La Société de Confiance. « La confiance comme la défiance ont en elle un principe dynamique. Dans l'action, l'une l'emporte sur l'autre. » Et Alain Perfit dit aussi « Le ressort du développement réside dans la confiance accordée à l'initiative personnelle, à la liberté exploratrice. » L'histoire s'achève avec la mort d'Abraham. Abraham prit encore une femme nommée Keturah, elle lui donna un fils, je passe tout cela. Et donc, vous voyez que c'est ça, telle fut l'histoire d'Abraham dont vous avez pu percevoir le caractère plein de contrastes. Intelligence et habileté, mais confiance profonde. C'est pas toujours, ça va pas toujours de pair, hein. Intelligence et habileté, mais confiance profonde et espérance. Savoir-faire pour négocier, mais obéissance. Richesse, mais aptitude au risque. Conscience profonde de l'existence d'un Dieu créateur et dialogue avec lui, mais capacité à innover. Ça va pas toujours de pair. Et à trouver des solutions par lui-même. Ce qui est frappant ici, c'est que on n'est pas en présence, comme plus tard les 10 commandements, on n'est pas en présence d'un code de commandement prescriptif. Tu ne tueras pas, tu ne voleras pas. On est en présence de différentes histoires humaines dans lesquelles les acteurs font des choix, parfois des mauvais choix, parfois des bons choix, et ils inventent, par exemple, pour l'affaire de la destruction de Sodome, c'est la théorie de la responsabilité individuelle. Tu ne vas pas détruire des justes par les injustes. Si nous comparons au mythe grec d'Œdipe, il est éclairant de voir que Œdipe ne put jamais se soustraire à son destin, malgré ses initiatives, que la liberté d'Œdipe ne lui permettait pas d'innover. Alors qu'au contraire, Abraham, lui, y parvient, parce qu'il innove, comme le fera par la suite Joseph. Souvenez-vous de Joseph, premier ministre du Pharaon. En inventant les réserves de blé, on fait des réserves sur les récoltes, eh bien, il a trouvé une solution aux famines. En inventant le casque protecteur pour les soldats, c'est lui qui l'a inventé, il évite des meurtres. Et ces innovations vont dans un sens, et c'est ça que je voudrais vous faire comprendre pour terminer, amis auditeurs, ils vont dans le sens d'une amélioration, suivant la prophétie d'Isaïe. Le grand prophète Isaïe, vous connaissez peut-être cette prophétie, « Le loup habitera avec l'agneau, on ne fera plus de mal ». Mais pourquoi on ne fera plus de mal? Eh bien, Isaïe le précise. « Car le pays sera rempli de la connaissance de Yahvé. » En somme, ce qu'on aperçoit là, c'est que le monde a une finalité. Qu'il y a un dessein, EIN, hein, intelligent, celui d'avoir la libre connaissance de son Créateur. C'est ce que nous apprend Abraham. Alors, je sais, vous allez me dire, cette finalité, qu'il n'y a plus de mal sur la terre, c'est pas pour demain, ni même pour après-demain. Mais ça reste une perspective que n'avaient pas même les Grecs anciens. Ça reste un objectif. Et donc je terminerai cette histoire par une autre phrase de la Bible bien connue. Le peuple qui marchait dans les ténèbres a vu se lever une grande lumière.
Sur Radio Courtoisie, vous venez d'entendre la dernière partie de La promesse à Abraham, un récit de Patrick Simon. Rendez-vous vendredi prochain pour une nouvelle Histoire à la loupe.